Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Nous avions prévu pour cette édition de Géopolitique de nous pencher sur la notion de bien fondé, de l'ingérence, de la nécessité d'intervenir ou de ne pas intervenir en fonction des situations qui se présentent dans le monde aujourd'hui, avec pour toile de fond la question syrienne bloquée au Conseil de sécurité de l'ONU par l'intervention de l'OTAN l'an dernier en Libye. L'actualité de cette semaine en France est venue bousculer la forme et d'une certaine manière aussi le fond. Reste que le vecteur commun à l'ensemble de la thématique reste le même, la violence comme moyen de faire de la politique. Avec cette question, peut-il y avoir un usage moral de la violence? C'est la question difficile que je poserai à nos invités. Ils sont trois par téléphone depuis Grenoble. Pierre Micheletti, ancien président de Médecins du Monde, professeur associé à Sciences Po Grenoble et directeur de l'ouvrage « Afghanistan, gagner les cœurs et les esprits », une coédition presse universitaire de Grenoble et RFI. Bonjour Pierre Micheletti.
Bonjour.
En studio à Paris, Philippe Riffman, professeur et chercheur associé à la Sorbonne et au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, auteur de Les ONG aux éditions La Découverte. Bonjour Philippe Riffman.
Bonjour Marie-France Chatin.
Et Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, philosophe et juriste, chercheur en droit international à l'Université McGill au Canada, auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier étant « La guerre au nom de l'humanité, tuer ou laisser mourir » qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Bonjour Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer.
Bonjour.
Alors que vous inspire ce qui s'est passé cette semaine en France et les jours qui ont précédé, les assassinats de militaires, la tuerie dans l'école de Toulouse, le siège de l'appartement de Mohamed Merah, l'assaut, la mort de ce dernier, l'assassinat des militaires avant de les tuer, Mohamed Merah, d'après ce que la caméra qu'il portait sur lui indique, tu tues mes frères, je te tue. Alors on est là dans le contexte plus général de la guerre en Afghanistan et dans l'affaire de l'école, une vengeance du conflit israélo-palestinien. Un commentaire Pierre Micheletti.
Au-delà de la réaction personnelle en tant qu'individu et en tant que père, en particulier devant les assassinats des enfants, j'ai envie de dire cette affaire fait que le conflit afghan, du fait des liens qu'avait cette personne avec ce territoire, se réinvite dans la vie politique française et vient nous rappeler 10 ans après, puisque pour mémoire 2001-2011, c'est une décennie qui s'achève, une décennie de présence de la coalition internationale menée par les États-Unis. Ces événements viennent nous rappeler que l'entrée de la coalition sur le territoire afghan s'était fait précisément avec pour premier objectif de combattre des mouvements djihadistes internationalistes pilotés par Al-Qaïda. Et on a un exemple là d'un jeune homme qui a été dans cette mouvance, qui est revenu sur le territoire français et qui a perpétré les événements. Et ça nous rappelle combien le conflit afghan a été le creuset de ce mouvement Al-Qaïda.
Un commentaire, Philippe Riffman.
Oui, je crois que comme le disait Pierre, il ne faut pas effectivement d'abord oublier les victimes dans ce type circonstances et d'analyse, mais puisque vous nous demandez une analyse, je crois que ça pose une série de questions, puisqu'on est dans une dimension, on peut qualifier de dimension de terrorisme, sauf que le terrorisme aussi bien, sur le plan international, est quelque chose de très difficile à définir, il n'y a d'ailleurs pas de définition du terrorisme, mais on peut dire qu'effectivement, ça témoigne aussi aujourd'hui, de cette espèce de démultiplication de la violence armée, à travers donc d'après ce qu'on dit les médias, d'un individu qui s'est en quelque sorte radicalisé individuellement. Il semble qu'il n'appartenait même pas à un réseau. Donc il y a cette auto-radicalisation, notamment à travers des voyages, mais aussi à travers Internet. Et cette espèce de diffusion de la violence, elle montre aussi peut-être une dernière chose aussi, qu'on constate dans les affrontements sur le terrain entre armées ou entre milices ou entre des groupes combattants et des armées, c'est la disparition totale, ou l'effacement total de la distinction entre civils et combattants. On tue des enfants, on tue effectivement des militaires qui viennent retirer de l'argent à un distributeur de billets, et donc cette espèce de démultiplication de la violence, elle se démultiplie aussi en termes de cible de la violence.
Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer.
Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est un événement qui repose la question de ce que l'administration Bush appelait à tort la guerre contre le terrorisme. Pourquoi à tort? Parce que le terrorisme c'est une technique, donc la question est de savoir comment est-ce qu'on fait la guerre à une technique, d'une part, et d'autre part, que signifierait alors la question de la victoire? Qu'est-ce que ça veut dire gagner la guerre contre le terrorisme? Bush nous l'a promis pendant des années, on ne gagnera jamais la guerre contre le terrorisme dans la mesure où il y aura toujours des attentats, donc est-ce que c'est une question de seuil? En deçà de quel seuil on considère qu'on a gagné quelque chose? Donc cette notion est à bannir, mais mais la réalité est toujours là. Sur la guerre en Afghanistan, je voudrais rappeler que c'est une guerre qui s'est déclenchée par l'activation de l'article 51 de la charte, c'est-à-dire c'est une guerre de légitime défense à l'origine, en octobre 2001, en réaction aux attentats du 11 septembre. Donc ce n'est pas une guerre qui est considérée comme ayant une raison, un motif, en tout cas dans son déclenchement, humanitaire. Et donc elle est à distinguer de la discussion qu'on va avoir juste après sur les interventions dites humanitaires. Mais ensuite, dans son déroulement, il y avait bien entendu une préoccupation humanitaire, d'autant plus que les Américains ont une conception très large de l'humanitaire qui inclut une dimension politique, puisque il y a une confusion sincère, à mon avis, chez des gens comme Bush, mais pas seulement, aussi Blair ou Howard, par exemple, en Australie, entre l'intervention humanitaire et l'intervention pro-démocratique. Ça pose aussi, dernier point, la question de la temporalité. Pour l'Afghanistan, l'intervention en octobre 2001 était légitime, à mon avis. Son déclenchement était légitime et il a été d'ailleurs soutenu par ce qu'on appelle à tort aussi la communauté internationale, que je préfère parler de société internationale. Et alors le début est important, mais maintenant c'est la question de la fin. Et on a trop tardé à sortir de cette guerre et on finit par le faire, à raison, mais trop tard à mon avis.
Oui. Alors on reviendra sur la question de la légitimité de cette guerre en Afghanistan. Elle était peut-être en 2001, en tout cas c'est une question qui vaut sans doute débat. Avant cela, pour rester encore un tout petit instant sur la question de Toulouse et élargir ensuite le propos, on est là dans une sorte de spirale de violence sans fin. Est-ce que, d'après vous, cela donne raison à ceux qui, sans être forcément pacifistes, estiment que la guerre est le pire moyen de faire de la politique? Pierre Micheletti.
C'est difficile de répondre globalement à cette question. Je pense que on le comprend très bien à la lecture de l'ouvrage de Jean-Baptiste Jean-Jeanne Villemer. À chaque situation, son cadre historique, son cadre juridique. Dans la grille d'analyse qu'il propose sur les interventions, il établit comme un des critères que cette intervention militaire doit être le dernier recours, indépendamment de préalables qui sont aussi décrits dans l'ouvrage, dans lesquels je me reconnais, sur la légitimité de l'intervention, sur la justesse de la cause et l'intentionnalité qu'il y a derrière. Donc la guerre est un outil de politique étrangère, mais qui doit être toujours pesé au cas par cas et encadré à la fois au plan juridique, au plan éthique.
Philippe Riefmann.
Oui, je peux abonder dans le sens de ce que vient de dire Pierre Micheletti. Simplement, je crois qu'on peut très bien avoir effectivement une approche pacifiste. Et c'est une conception, c'est aussi, dans une certaine mesure, une idéologie, mais qui est tout à fait légitime. On peut tout à fait avoir ce point de vue. Simplement, je dirais qu'il est aussi compréhensible que dans des contextes d'ultra-violence, dans des contextes d'affrontement, certains fassent le choix de prendre les armes. Ou effectivement de mener donc un combat militaire. Donc il y a une question de contextualisation. Nous parlerons certainement tout à l'heure de la Syrie. On voit très bien, puisque ça fait très exactement un an qu'en Syrie cette révolution a débuté, on voit très bien que d'ailleurs il y a une radicalisation des opposants qui commence par des manifestations pacifiques et qui, au fur et à mesure, avec l'intensification de la répression, certains font le choix des armes. Ce qui n'est pas le cas de tous, d'ailleurs. Certains continuent à être hostiles au choix de la militarisation. Mais les contextes doivent être appréciés concrètement par rapport, effectivement, à un ensemble de paramètres. Le reproche que l'on peut faire au pacifisme, c'est justement de ne pas prendre en compte les contextes et d'avoir une approche philosophique, théorique, qui ne prend pas en compte ces contextes. Je terminerai juste par un exemple. En 1939, Bertrand Russell, un philosophe très connu à l'époque, très pacifiste et donc hostile à toute intervention, critique donc l'entrée en guerre contre l'Allemagne nazie en disant faut rien faire, faut laisser les Allemands arriver jusqu'à Londres, ils verront que c'est complètement stupide, ils repartiront.
Intervenir ou pas intervenir, ça vous fait sourire en tout cas, Jean-Baptiste Jean-Jeanne Villemer. Pour en revenir à la question afghane, on abordera dans la deuxième partie de l'émission la question syrienne. Sur l'Afghanistan, vous parlez de légitimité, de justesse de la cause. Face à quoi se retrouve-t-on aujourd'hui, 10 ans après le début de cette guerre, si l'on se situe ne serait-ce que sur le plan de l'utilité?
L'utilité, c'est toujours quelque chose de difficile à évaluer parce que ça implique le contrefactuel. Pour savoir si une intervention a eu un effet positif, il faudrait pouvoir comparer l'Afghanistan aujourd'hui, en 2012, avec l'intervention qui a eu lieu, avec ce que serait l'Afghanistan aujourd'hui en 2012 si l'intervention de 2001 n'avait pas eu lieu.
Or, ce qu'on ne peut pas savoir.
Donc c'est par définition même impossible. C'est l'objection classique du contrefactuel. Ce qu'on sait, c'est que notre présence en Afghanistan aujourd'hui n'a a priori pas d'effet positif, il y a même un effet pervers. Et depuis un certain nombre d'années, alors je ne suis pas un technicien de l'Afghanistan, je ne peux pas vous dire concrètement pourquoi ça s'est mal passé à un certain instant. Je pense, comme je disais tout à l'heure, qu'on avait raison d'y aller. Il y a quelque chose qui s'est délité au fur et à mesure et la présence sur place est devenue contre-productive. On aurait dû partir au moment où on a senti qu'elle était contre-productive. Peut-être qu'on n'a pas assez associé la société civile, les ONG. On pourrait demander à
Pierre Micheletti.
Micheletti et Philippe Riefmann sur ces questions-là.
Alors Pierre Micheletti.
Oui, et on voit dans la lecture de la dernière décennie afghane, qui est la dernière décennie de violence, mais n'oublions pas que c'est la troisième d'une longue série qui a au moins commencé avec l'invasion soviétique en 79. Dans l'ouvrage collectif que j'ai eu l'occasion d'encadrer, un certain nombre d'auteurs, je pense à Jean-Paul Burdi et à Philippe Rosincent, décrivent le fait que, dans leurs analyses, on est passé dans le conflit afghan d'un conflit antiterroriste qui nous ramène à l'actualité française et au djihadisme international, avec une des fractions du mouvement taliban qui était dans cette mouvance internationaliste qu'on retrouve aujourd'hui dans le PTP, le Tariq-e-Taliban Pakistan, le groupe le plus agressif de ces mouvements talibans, et que, inexorablement, de cette intervention anti-terroriste dont les observateurs militaires s'accordent à penser qu'elle a été réglée en quelques semaines avec moins de 5000 hommes des forces spéciales sur le terrain. Et on est rentré ensuite dans une phase de négligence à l'égard de la population afghane dans son ensemble, qui a fait que de cette logique antiterroriste, on est revenu vers un conflit anti-taliban et d'un mouvement taliban dont les autres fractions, elles, sont plus inscrites dans une logique de maîtrise du territoire et de reconquête du territoire, donc pas nécessairement sur une vision internationaliste. Et dès lors que c'était plus vis-à-vis de combattants tchétchènes, ouzbeks, qu'on se battait, mais contre un mouvement qui piochait ses racines beaucoup plus dans l'ensemble de la société afghane, et en particulier dans l'ethnie pachtoune, alors on a changé complètement d'échelle dans le conflit, et pour arriver, je vous le rappelle, à avoir 140 000 hommes de la coalition, et qu'à l'apogée même de la présence de la coalition à la fin du surge, ces 140 000 hommes n'ont pas réussi à totalement maîtriser la situation militaire, parce que les ramifications avec la population étaient devenues trop fortes, et donc comment, alors même qu'on rentre dans une logique de déflation des troupes de la coalition, peut-on envisager une victoire militaire aujourd'hui ?
Philippe Riefmann ?
Je crois que par rapport à votre question et par rapport aux observations qui ont été faites, il y a deux choses. D'une part, et Jean-Baptiste Jeanine Villevert le disait tout à l'heure, l'intervention au départ est autorisée par le Conseil de sécurité. Il y a une résolution. Elle a été autorisée puisque Ben Laden, Al-Qaïda, était donc abrité et installé donc en Afghanistan et que le gouvernement taliban à l'époque a refusé donc effectivement de le livrer. Donc on a ce contexte au premier. Et puis, je ne vais pas revenir sur les différentes phases, je ne suis pas un spécialiste de l'Afghanistan. Ce qui me paraît aujourd'hui constatable, c'est que on est face à une insurrection talibane, donc à base à la fois nationaliste et religieuse, et qui vise donc à prendre le pouvoir ou à reprendre le pouvoir, avec toute une série également de contextes régionaux que vous avez déjà évoqués, je crois, dans cette émission, Marie-France Chatin, qui sont très complexes, avec le jeu du Pakistan, le jeu de l'Inde, le jeu aussi de la Russie ou de l'Iran. Donc ça, c'est des choses dont on ne peut pas s'abstraire. Quant au fait de savoir si on n'a pas suffisamment associé la société civile, les ONG afghanes, la société civile afghane, et puis aussi des ONG internationales, c'est très certainement le cas. Ceci étant, je crois qu'il y a deux phases, en fait. Une première phase qui va à peu près jusqu'à 2005-2006, où On semble s'orienter vers une issue positive, avec effectivement des élections, une certaine implication de la société civile, et puis une seconde phase qui commence à peu près dans ces années-là, où le mouvement taliban redevient très puissant et mène une véritable insurrection avec contrôle du territoire. Et donc là, on est dans une phase beaucoup plus militarisée, avec des affrontements très importants, où la société civile, en fait, se trouve mise quasiment hors jeu. Et donc ça change totalement le contexte. Mais sur le plan aussi de la question humanitaire en Afghanistan, on est confronté à toute une série de difficultés, notamment de difficultés d'accès et le fait de savoir si les organisations humanitaires ont à être présentes des deux côtés. Ce qui est d'ailleurs le choix qui est fait maintenant par un certain nombre d'entre elles, mais simplement ce simple choix, le fait que par exemple le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières ont aujourd'hui une action humanitaire aussi bien du côté des zones contrôlées par les insurgés que celles contrôlées par le gouvernement Karzai et la coalition internationale, montre bien qu'on est dans une situation de conflit aujourd'hui, conflit extrême, et donc qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qui se passait en 2002 ou en 2003.
Situation de conflit, donc. Alors, je posais la question tout à l'heure de l'utilité ou non. Dans le cas du conflit afghan ou de la situation en Afghanistan, ce qu'on peut dire finalement, et est-ce qu'on peut le résumer à cela, c'est la question en fait que je vous pose, une démonstration de force importante en réaction aux événements du 11 septembre contre les tours jumelles à New York. Et c'est tout, Jean-Baptiste Jean-Jean Wilmer.
Moi, je parlerais plutôt d'une démonstration d'impuissance, parce que la solution n'était pas forcément que militaire. S'il s'agissait de frapper les camps d'Al-Qaïda en Afghanistan, d'ailleurs, on n'avait pas attendu 2001 pour le faire, l'enjeu n'était pas militaire et donc n'impliquait pas forcément une démonstration de force. L'enjeu était d'arriver à réduire l'influence des talibans, et malheureusement, 10 ans après, on a fait exactement l'inverse. Donc, je parlerai plutôt d'une démonstration d'impuissance dont il faut chercher les causes.
Un commentaire, Pierre Micheletti ?
Rappeler, ça vient d'être rapidement évoqué, le fait qu'on estime que Ben Laden s'est installé dans la région de Khost en Afghanistan à partir de 1984, au moins de façon discontinue. Donc ce mouvement djihadiste s'est déployé bien avant l'intervention de 2001. Et puis, oui, redire à nouveau qu'une chose est la légitimité du déclenchement de l'intervention militaire, autre chose est la capacité à avoir une lecture politique qui fasse infléchir les modalités de l'intervention. Et si je crois que si on avait eu cette attention politique fine, qui s'explique aussi en partie par le fait qu'à un moment donné, la loupe a été tournée vers le conflit irakien, et que donc c'est aussi à cause du conflit irakien que les États-Unis, qui sont les leaders dans cette affaire, sont rentrés dans une relative négligence de la situation afghane. Mais en tous les cas, indépendamment des logiques propres à l'intervention militaire, on voit bien que le défaut de lecture politique n'a pas vu venir, en tous les cas pas vu venir suffisamment vite, combien le mécontentement gagnait la population et créait les conditions d'une montée en puissance à nouveau du mouvement taliban.
Donc pour résumer, défaut de lecture politique, géopolitique, le débat, nous retrouvons nos invités, Philippe Riffman, Pierre Micheletti et Jean-Baptiste Jean-Gène Wilmer dans quelques instants. À tout de suite.